Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le 29e dimanche. C'est alors que les pharisiens vont tenir conseil pour piéger Jésus sur ses paroles. Ils lui envoient leurs disciples avec ceux des Hérodiens. Ils disent
« Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes en vérité le chemin de Dieu. Tu ne te soucies de personne, en effet tu ne regardes pas à l'apparence des gens. Dis-nous donc ce qu'il te semble. Est-il permis ou non de donner l'impôt à César ?»
Connaissant leur méchanceté, Jésus dit
« Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. »
Ceux-ci lui présentent un denier. Il leur dit
« De qui est cette image et l'inscription ?»
Ils lui disent
« De César. »
Alors il leur dit
« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. »
En l'entendant, ils sont étonnés et le laissant, ils s'en vont.
Auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Ici, on se penserait vraiment en période d'élection. En effet, quel scandale va pouvoir miner la confiance que l'on peut avoir en cet homme public? Qui aura la meilleure astuce pour le faire tomber dans son piège?
Oui, mais la réponse de Jésus, pourtant toute simple, laisse bien des interrogations. En effet, faut-il faire porter la pointe de la réponse sur César ou bien sur Dieu? Cette réponse ne concerne-t-elle que l'épisode de l'impôt? Ou bien peut-on voir là un enseignement plus vaste, par exemple sur les liens du politique et du religieux?
Où se situe cette controverse dans le récit de Matthieu?
Eh bien, nous sommes dans les dernières semaines de la mission de Jésus, son entrée très remarquée à Jérusalem, et le geste de purification du temple ont accru l'agressivité de l'élite religieuse à son égard. Pharisiens et Hérodiens veulent donc le prendre en défaut, afin de se débarrasser de lui. Aussi, ils cernent ses allées et venues et ils engagent avec lui des controverses. Nous aurons deux autres controverses qui suivront celle d'aujourd'hui, celle de l'impôt, l'une sur la résurrection et l'autre sur le plus grand commandement. Les chefs, en effet, cherchent un moyen de pouvoir l'arrêter, mais discrètement, car ils ont peur des foules qui tiennent Jésus pour un prophète. Et Jésus aura effectivement le sort des prophètes.
Quel est le contexte politique et religieux?
Nous sommes donc dans la province de Judée, la province qui entoure la ville de Jérusalem. Celle-ci, cette province, est administrée directement par un gouverneur qui est nommé par l'empereur de Rome. En effet, les Romains occupent le pays d'Israël depuis près de 100 ans. À un moment où se situe cet épisode, le gouverneur de la Judée est Ponce Pilate. Ce Ponce Pilate avait d'ailleurs fait exposer dans le temple de Jérusalem, quelques années auparavant, des enseignes à l'effigie de l'empereur, et cet acte, jugé blasphématoire pour les Juifs, avait provoqué une explosion de colère de leur part, et qui avait été sévèrement réprimée. En plus des charges indirectes, péages, douanes, taxes innombrables, les provinces qui sont colonisées doivent payer un impôt à l'Empire romain. Cet impôt était le même pour tous les Juifs et il n'y avait que les enfants et les vieillards qui en étaient exemptés. Cet impôt était bien sûr perçu comme un signe infamant de la sujétion du peuple de Dieu à cette Rome païenne. Payer l'impôt à l'empereur, est-ce que ce n'est pas reconnaître sa souveraineté sur Israël si fier d'être le peuple du vrai Dieu, un peuple qui n'a pas d'autre roi que le maître de l'univers? La pièce de monnaie, qui était utilisée pour l'impôt, s'ornait en outre d'une représentation du buste de l'empereur qui était couronné comme un dieu. Elle portait aussi cette inscription « Tibère César, Auguste, fils du divin Auguste ». Pour les Juifs, cette effigie de l'empereur divinisé était un blasphème envers le vrai Dieu créateur, le Dieu unique. Pour apaiser les sensibilités, les gouverneurs avaient bien fait frapper des pièces de monnaie sans effigie, mais cela n'était pas valable pour la pièce de l'impôt qu'on appelait le tribut à César.
Quelles étaient les réactions diverses des Juifs en face de cet impôt?
Eh bien, elles sont diverses. D'abord, un groupe de nationalistes très pieux, les Zélotes, interdisaient à leurs partisans de payer l'impôt. Ce geste de rébellion se voulait un signe de fidélité à la Torah et au Dieu d'Israël. Vers l'an 6, d'ailleurs, Judas le Galiléen avait soulevé des partisans contre Rome et les Romains avaient noyé cette révolte dans le sang. Il y avait eu plus de 2000 des partisans de Judas qui avaient été crucifiés. Un autre groupe, celui des pharisiens, subissait cette contrainte vexatoire à contre-cœur. Car pour eux aussi, cela était en totale contradiction avec leur devoir de ne servir que Dieu, le seul roi d'Israël. Mais les pharisiens, qui pensaient sans doute la désobéissance à Rome impossible sans une révolte qui serait violente, sans une guerre, tentaient de s'accommoder de la situation. Certains rabbis et scribes justifiaient même le paiement de l'impôt en disant que même les rois païens reçoivent leur pouvoir de Dieu. Enfin, un troisième groupe, les Hérodiens, eux étaient fortement liés à Rome, puisqu'ils étaient les partisans de la dynastie des Hérodes, les Hérodes qui étaient des Juifs mêlés de sang arabe, qui collaboraient avec les Romains dont ils recevaient leur couronne. À l'époque, l'empereur avait nommé Hérode Antipas comme le roi de Galilée et de Pérée. Leur présence avec les pharisiens dans cette controverse s'explique peut-être par le fait que Jésus était originaire de la Galilée et qu'on ne pouvait donc entreprendre aucune action contre lui sans avoir au moins l'accord tacite d'Hérode. C'est ce même Hérode qui avait fait emprisonner Jean le Baptiste. L'évangéliste Luc le présente comme étant carrément hostile à Jésus.
Quelques pharisiens s'approchèrent et dirent à Jésus, « Va-t'en d'ici, pars, car Hérode veut te faire mourir. » Il leur dit, « Allez dire à ce renard, il me faut poursuivre ma route aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. »
Voilà donc le contexte dans lequel il nous faut comprendre ce piège qui est tendu à Jésus. Le but est de pouvoir le livrer au gouverneur romain qui seul a le pouvoir de condamner à mort. Pour ça, il suffirait que Jésus, comme Judas le Galiléen 25 ans plus tôt, conseille la désobéissance en refusant de payer le tribut à l'empereur. On peut penser que ce serait dans la ligne de pensée de Jésus qui rappelle toujours qu'on ne peut servir deux maîtres, Dieu et Satan. Si Jésus dit au contraire qu'il faut payer l'impôt, les pharisiens espèrent que cela fera que le peuple sera contre lui, il se mettra à dos le peuple, ce peuple qui lui aspire à ne plus payer l'impôt à Rome. Et si le peuple lâche Jésus, les chefs religieux et politiques auront alors les coudées franches pour l'arrêter. Alors ils doivent agir avec habileté.
Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes en vérité le chemin de Dieu. Tu ne te soucies de personne. En effet, tu ne regardes pas à l'apparence des gens.
Oui, au-delà de ce compliment hypocrite, cette affirmation touche un aspect important de l'attitude de Jésus. Effectivement, il ne regarde pas à l'apparence puisqu'il s'adresse même en priorité aux petites gens, aux gens marginalisés, voire même rejetés. Les pauvres, les malades, les handicapés, les collecteurs d'impôts qui sont des collaborateurs avec l'ennemi. Mais plus profondément, Jésus apporte la vérité qu'il a découverte dans sa relation au Père divin. Rappelons pour ça ce passage du récit évangélique de Jean.
Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi.
Oui, c'est la densité même de la vie de Jésus, sa prière intense et continuelle, qui le plonge dans cette vérité absolue qu'est Dieu. Et c'est cela que Jésus veut communiquer à ses disciples. Il les invite à entrer en relation avec lui, à se nourrir de sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres.
Quel est le sens de la réponse de Jésus ?
Eh bien, Jésus est certes très conscient de l'enjeu. S'il dit qu'il ne faut pas payer l'impôt à l'empereur, qui est un païen, et les partisans zélotes l'annexeront à leur politique, et les chefs religieux vont le dénoncer aux autorités romaines qui l'arrêteront et le condamneront. Jésus sera, en effet, passible de la loi romaine, la Lex Julia Lese Majestatis, qui punit de lèse-majesté celui qui se déclare roi, alors que le seul qui peut être roi doit être nommé par l'empereur. Et cette loi était appliquée avec beaucoup de sévérité dans ces dernières années du règne de l'empereur Tibère. Si, au contraire, il dit qu'il faut payer le tribut, la sympathie du peuple se refroidira à son égard, puisque les gens qui sont accablés de payer tant d'impôts sont prêts à se révolter contre l'occupant. Et Jésus ne pourra d'ailleurs plus prétendre au rôle de Messie, car pour le plus grand nombre, le Messie qu'ils attendent est celui qui doit libérer le peuple, et la première libération est bien sûr celle de l'occupant romain. Alors, très habilement, Jésus demande de voir la monnaie qui sert à payer le tribut à César.
De qui est cette image et l'inscription ? Ils lui disent de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
Alors comment comprendre cette réponse ? Eh bien, les commentateurs des évangiles sont bien divisés. Une compréhension qui est certainement à écarter, est celle de comprendre cette réponse en fonction des situations d'aujourd'hui. Par exemple, penser que Jésus enseignerait à séparer les domaines religieux et politiques. En effet, à son époque, chez les Juifs comme chez les Romains, les domaines religieux et politiques étaient confondus. Les messies comme les empereurs sont les représentants de Dieu ou des dieux. Il serait sans doute aussi erroné de voir dans la réponse de Jésus une indication que le spirituel est une affaire privée et que la vie publique doit être une vie laïcisée. Comme on dit aujourd'hui, la foi devrait trouver place au temple et dans les synagogues, dans les églises, alors que dans la société et dans ses institutions, les écoles, les hôpitaux, il faudrait la neutralité religieuse. C'est là une façon moderne de voir qui ne pouvait être comprise à l'époque de Jésus, où les seules écoles était celle de l'apprentissage de la Torah, et la seule autorité religieuse et politique était celle du grand conseil qui était présidé par le grand prêtre.
Faut-il alors comprendre que Jésus ne répond pas à la question et qu'il se sortirait du piège par une sorte de pirouette ?
On peut en effet imaginer que Jésus fait une réponse pouvant être interprétée différemment par chacun de ses auditeurs. Les pharisiens, eux, vont comprendre qu'il faut payer l'impôt malgré tout, à la fois pour éviter une révolte violente qui serait un suicide collectif, et parce que l'autorité de cet empereur païen vient de Dieu. On peut alors avoir comme appui ce que l'apôtre Paul écrira quelques années plus tard aux chrétiens de Rome.
Que tout un chacun soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu. Il est nécessaire de se soumettre, non seulement par crainte de la colère, de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est la raison pour laquelle vous payez des impôts. Rendez à chacun ce qui lui est dû. À qui l'impôt, l'impôt. À qui la taxe, la taxe.
Les Hérodiens, ce deuxième groupe, eux, s'appuieront sur une conduite qui semble habituelle chez Jésus. Il est souvent, en effet, proche des publicains. Et les publicains, ce sont précisément les percepteurs de l'impôt romain. De même, on voit que Jésus fréquemment fait la louange de païens. C'est en effet d'un centurion romain qu'il dira « Je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » À l'opposé de ces deux groupes, les foules et les zélotes comprendront qu'il faut être fidèle à Dieu, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et donc ne pas payer tribut à ce païen qui usurpe le pouvoir de Dieu. N'est-ce pas en effet l'attitude de Jésus qui nous est décrite dans le récit des tentations?
Le diable lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire. Tout cela, je te le donnerai si tu m'adores. Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. »
Alors voilà donc des façons de comprendre la réponse de Jésus et qui sont peut-être plausibles, mais si les évangiles, si les récits des évangiles ont transmis ces paroles de Jésus, on peut penser qu'elles livraient peut-être un message plus important encore, qui n'était pas seulement important pour les interlocuteurs de l'époque, mais aussi important pour les chrétiens qui viendraient après. Alors tentons une autre réponse. Pourquoi Jésus demande-t-il à voir la pièce de monnaie qui sert à payer l'impôt? Celle-ci, fait-il remarquer, porte une effigie et une inscription. Alors l'effigie, bien, c'est celle de l'empereur couronné comme un dieu, et l'inscription, elle, va bien préciser sa divinisation. C'est à partir de ça que Jésus précise « Rendez à César ce qui est à César », mais il ajoute « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Et cette deuxième formule, on peut penser qu'elle s'appuie aussi sur une effigie. Et là, l'effigie, eh bien, c'est celle de l'être humain à la ressemblance de Dieu, comme le dit le texte de la Genèse.
Dieu dit, faisons l'être humain à notre effigie, selon notre ressemblance.
Et on peut encore appeler à notre rescousse le livre d'Isaïe, qui rappelle que tout fils de Dieu porte l'inscription de sa ressemblance.
L'un dira, j'appartiens au Seigneur. L'autre écrira sur sa main, je suis au Seigneur.
Et allons aussi chercher la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, qui dit que tout disciple de Jésus appartient à Dieu.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous recevez de Dieu et vous ne vous appartenez pas.
Mais peut-être que celui qui nous aidera encore plus dans cette vision des choses, c'est l'évêque d'Hippone, le grand Augustin, qui dans cette homélie interprète de cette façon cet épisode.
Dieu, mes frères, nous redemande son image, à laquelle nous avons été créés. Dieu cherche son image en ton âme. Rends à César, dit le Sauveur, ce qui appartient à César. Que réclame de toi César? Son image. Que réclame de toi le Seigneur? Son image. L'image de Dieu est en toi. Faire injure à l'image de Dieu ne serait-ce point pour toi un sujet de larmes.
Oui, il y a donc bien des manières de rendre à César ce qui est sien, et à Dieu ce qui est de lui et pour lui. Et l'évangile, qu'on appelle l'évangile apocryphe, l'évangile de Thomas, ajoute « Et rendez à moi ce qui est à moi ». Alors, peu importe si cette parole de Jésus est exacte, elle semble pourtant dans la tonalité de ce que nous exposons. En effet, celui qui est à Dieu, dirait Jésus, reconnaît aussi que je viens de Dieu et que je suis à lui. Si vous étiez de Dieu, vous les pharisiens et les hérodiens, dit Jésus, vous reconnaîtriez que je suis l'envoyé de Dieu et que je ne sers que lui. Vous reconnaîtriez de quelle autorité j'agis lorsque je purifie le temple et vous ne viendriez pas me poser cette question piège. Vous reconnaîtriez le visage de Dieu, son effigie, à travers les actes que je pose en son nom. Vous reconnaîtriez le visage de Dieu, qui est un Dieu de miséricorde et de tendresse, pardon pour tous ceux qui sont des appauvris d'amour. Un Dieu qui ne condamne pas, mais appelle chacun à se libérer de toute servitude. Un Dieu qui fait appel à la bonté, enfouie dans le cœur de tout être humain.
La réponse de Jésus comporte-t-elle un enseignement pour nous aujourd'hui?
Cette réponse de Jésus, je crois qu'elle interpelle aussi bien les pharisiens que les hérodiens, aussi bien les foules d'Israël que nous, les disciples de tous les temps. reconnaissez-vous que vous appartenez à Dieu? Ou bien, est-ce que vous appartenez à César, à ses sbires, à ses agents? Quel maître servez-vous? Dieu ou Satan? Dans le fait de payer ou non le tribut à César, ce qui importe vraiment pour Jésus est l'orientation profonde de la vie de chacun. Est-ce que nous servons les intérêts des puissants de ce monde, c'est-à-dire l'argent, l'exploitation des plus petits par les plus forts, l'utilisation du mensonge et de la violence pour écraser et dominer? Tous les événements que nous vivons illustrent cela à travers le monde, le Kosovo, l'Afrique, le Timor oriental, et puis ces immenses légions de chômeurs à travers tous les pays. Croyez-vous en ces idoles du monde que sont le libéralisme économique, ou bien servez-vous Dieu? Servez-vous Dieu non seulement en le priant, mais en respectant son image dans la personne des plus petits et des plus mal pris, en travaillant à faire respecter les droits de la veuve et de l'orphelin, comme on disait au temps de Jésus, mais aujourd'hui ce sera le droit des chômeurs au travail. La société que vous contribuez à créer est-elle de ce monde? Utilise-t-elle les moyens de ce monde, qui sont ceux de la violence, de la domination, du mépris et du mensonge? Ou bien agissez-vous avec les moyens de Dieu, comme le redira Jésus à la veille de sa mort?
Les rois des nations agissent en Seigneur sur elles, pourvu qu'il ne soit pas ainsi. Au contraire, le plus grand parmi vous qui soit comme le plus jeune, et celui qui dirige comme celui qui sert. Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
Jésus nous interpelle sur notre vision du monde. En tant que chrétiens, nous devrions voir la vie, le monde, avec les yeux de Jésus. Aller à la rencontre de l'autre, c'est découvrir en lui, en elle, l'être unique, aimé de Dieu. C'est ce que fit Jésus qu'en rencontrant Zachée dans la ville de Jéricho, il ne s'est pas laissé arrêter par les critiques des gens qui disaient « il est allé prendre un repas chez un pécheur ».
C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. »
Aller vers l'autre, c'est découvrir la beauté intérieure derrière le plus petit geste.
Levant les yeux, Jésus vit ceux qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. C'étaient des riches. Il vit aussi une veuve misérable qui y mettait deux petites piécettes. Et il dit, « Vraiment, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là ont pris sur leur superflu pour mettre dans les offrandes. Mais elle, elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle avait pour vivre. »
Oui, savons-nous voir l'autre, tout autre, comme quelqu'un qui est à Dieu? Rappelons ici un texte d'Yvette Bélanger, militante à ATD Carmonde.
Quand tu es assistée sociale, tu es considérée comme voleuse ou fraudeuse. Au restaurant, on te fait payer ton repas avant de manger. Ou alors tu dois te justifier dès que tu reçois un cadeau. Si je m'achète un habit, je me dis, est-ce que cela va faire riche? Il faudrait avoir l'air pauvre. Pourtant, tu as le droit d'avoir quelque chose de beau chez toi. Tu as le droit d'être fier. Tu as le droit de choisir et même de dire non merci à celui qui te donne. Quand j'ai connu ADT Carmonde, j'ai mieux compris combien la misère nous oblige à mentir, à faire bien des affaires. Nos enfants grandissent là, là-dedans, et risquent de pousser tout croche. Mais je dis à mes enfants de ne pas baisser la tête. Moi, je l'ai baissé trop longtemps. Maintenant, j'accompagne des gens qui ne se sentent pas assez forts pour aller au bureau du bien-être social. Je leur dis, vous êtes quelqu'un d'important. Nous sommes tous des êtres humains avec plein de ressources. Le Père Joseph nous a appris que si on attaque la dignité de quelqu'un, c'est un devoir sacré de réagir.
En résumé, on pourrait dire que pour Jésus, la politique, elle est de l'ordre des moyens et qu'il n'y a qu'un seul absolu, l'être humain, dont la dignité et celle d'un fils, d'une fille de Dieu. Et c'est cela qui fait juger toute politique. Enfin, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est aussi prendre conscience que tout est grâce, que tout nous est donné. Notre corps merveilleux et ses innombrables plaisirs, du goût, de l'odorat, de la vue, de l'ouïe. L'univers, inépuisable de surprises, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Notre intelligence et la joie de toute création artistique, qu'elle soit littéraire, musicale, picturale, scientifique. Notre cœur, capable d'amitié, d'amour et de bonté. Notre esprit, immortel, fait pour l'infini et la gratuité. Tout est grâce et don de celui qui est la source éternelle de vie et d'amour. Rendre tout cela à Dieu, c'est lui dire notre reconnaissance, c'est à notre tour lui rendre grâce, amour de totale gratuité.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures. Spécialement Messire le Frère Soleil, beau et rayonnant, avec grande splendeur. Pour Sœur Lune et les étoiles, claires, précieuses et belles. Pour Sœur Eau, fort utile et humble et précieuse et chaste. Pour Frère Vent et la pluie par lesquels à tes créatures tu donnes le soutien. Pour Frère Feu, beau et joyeux et robuste et fort. Pour notre Mère Terre qui nous porte et nous mène. Sois loué, mon Seigneur, à cause de notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Loué et béni sois-tu. C'est en tes mains, Père, que nous remettons le souffle spirituel qui nous vient de toi. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Le numéro 254-8750, s'il vous plaît, n'appelez pas après 22 heures. Vous pouvez aussi utiliser notre télécopieur, c'est le numéro 256-1106. Vous nous trouverez aussi sur Internet, téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse de notre site. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Téléphonez-nous, nous vous donnerons toutes les indications.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.